Gare internationale, avez-vous dit, grande épopée, avez-vous souligné, c'est vrai, mais Saint-Jean-Maurienne est placé dans un endroit complexe, puisque nous sommes au cœur des Alpes, et si nous voulons prolonger la grande épopée, donc il faut penser donc, à franchir les Alpes. Pas simple, puisque la Saint-Jean-Maurienne est en France, pour franchir les Alpes, il faut aller en Italie, mais il faut aussi aller en Suisse. Pour continuer donc notre réflexion sur le positionnement du rail en Maurienne et sur la gare de Saint-Jean-Maurienne, donc il était intéressant de regarder comment les choses se passent dans notre environnement donc immédiat. Et pour ce faire, je donne la parole donc à M. Kevin Sutton, qui est géographe à l'Université de Grenoble et qui va nous parler donc des traversées alpines. Merci de votre intervention.
Merci beaucoup et merci beaucoup pour cette invitation. Bonjour mesdames et messieurs. Alors en effet, avec les interventions précédentes, on a vu la richesse de l'histoire des lignes de franchissement des Alpes. On a parlé évidemment beaucoup de la Maurienne, on a commencé à évoquer un petit peu des noms comme le Gothard. Et avec le petit parcours que je vais vous proposer dans les minutes qui suivent, l'idée c'est un peu de passer de la dimension historique à la question en fait de comment peut-on mettre en valeur justement ce patrimoine que composent à la fois ces infrastructures, mais aussi cet ensemble de l'histoire de ces lignes de franchissement des Alpes, comment mettre en valeur ce patrimoine et en fin de compte interroger les formes de valorisation patrimoniale de lignes de franchissement des Alpes, et pour cela, de faire un petit pas de côté, de nous éloigner temporairement de la Maurienne et de regarder ce qui se fait en Suisse, pays réputé bien entendu pour son système ferroviaire, mais aussi pour sa façon d'intégrer justement le ferroviaire et plus largement les réseaux dans une conception territoriale réellement globale, intégrant par là même à la fois acteurs territoriaux et justement les acteurs ferroviaires. Alors tout d'abord quelques petits repères par rapport à des noms que je vais utiliser. Lorsque l'on parle de franchissement des Alpes en Suisse, on parle très fréquemment, avant toute chose, de deux grands axes. Un premier axe, dont vous avez déjà entendu le nom, hein, l'axe du Saint-Gothard ou du Gothard, hein, qui traverse la Suisse centrale, avec, en fait, deux tunnels, d'ores et déjà. Un tunnel historique, ouvert en 1882, et un tunnel de base, ouvert en 2016. Le second axe, c'est l'axe du Lötschberg-Simplon, donc qui passe par, déjà, deux points de franchissement. Un point de franchissement, du coup, entre la Suisse et l'Italie, le Simplon, avec un tunnel doté de deux galeries, la première ouverte en 1906, la seconde ouverte en 1922. Et le second point de franchissement, le Lötschberg, qui, comme le Gothard, est d'ores et déjà équipé de deux tunnels. Un tunnel historique mis en exploitation en 1913 et un tunnel de base ouvert en 2007. Alors, mon petit croquis ici n'est pas anodin. Vous avez entendu depuis tout à l'heure combien, à travers l'histoire du franchissement alpin, l'Europe s'incarne dans l'échelle la plus locale possible. À travers les chantiers, bien sûr, à travers l'exploitation, à travers les enjeux associés aux lignes. Lorsque l'on considère les traversées alpines en Suisse, vu de France, très souvent, on le projette comme quelque chose entre deux parties de l'Europe, entre mer du Nord et Méditerranée. C'est absolument vrai. Ces deux axes composent un même corridor de franchissement des Alpes entre, en l'occurrence ici, Bâle et Milan, avec un système, vous voyez, redondant, puisque même au niveau des sillons, on peut orienter les trains vers un axe ou vers un autre. Mais pour comprendre la place spécifique des traversées alpines en Suisse, il est important aussi de considérer une autre dimension que l'on oublie parfois trop, vu de France. C'est que tant le Lötschberg que le Gothard, ce sont bien sûr des passages qui sont sur un axe international, bien entendu, mais ce sont aussi des passages qui permettent de relier deux parties de la Suisse. Et cette dimension de la continuité territoriale est fondamentale et explique que lorsque l'on parle ferroviaire au Gothard ou au Lötschberg en Suisse, on parle bien sûr de transit, mais on parle aussi de l'enjeu de la desserte des territoires, et plus exactement de la liaison entre les centralités métropolitaines, Berne, Zurich par exemple, et deux périphéries de ce territoire suisse, en l'occurrence le Valais et le Tessin. Et dans la façon d'inventer et de célébrer d'une certaine façon les traversées alpines en Suisse, bien sûr qu'il y a la dimension européenne. Mais cette dimension intranationale est absolument fondamentale, et pour l'illustrer, je prendrai juste cette affiche de 1932. 1932, on fête les 50 ans du Gothard, ouvert en 82. On fête, bon, dans les faits les 26 ans, mais on va surtout fêter les 25 ans du Simplon, ouvert en 1906. Lorsque l'on prend cette affiche, vous voyez ce jeu de couleurs. Le vert va représenter en fait le versant nord. Et avec ce jaune, si vous regardez bien, on voit tout en haut de l'affiche une autre petite ligne où vous devinez dans l'écriture italienne. Ça permet d'identifier en fait ici, ben justement ce que je présentais sur cette carte, les deux versants de la Suisse. Le nord, le sud, avec nos passages, Gothard-Simplon, surtout Gothard en l'occurrence, qui permettent en toute modernité, Monsieur Bottineau présentait tout à l'heure l'aspect de l'électrification. On a justement une électrification dans les années 20 et les années 30 sur les passages alpins en Suisse. Vous voyez ces locomotives avec les pantographes fièrement levés. Ce chemin de fer est présenté ici comme le moyen justement de relier, d'assurer cette continuité territoriale. Et comment mieux assurer cette prise de conscience de l'enjeu de cette continuité territoriale que d'inciter les scolaires à parcourir ces lignes ferroviaires. En l'incitant au nom de quoi? Au nom du fait que Gothard et Simplon sont les produits du génie technique, que la jeunesse doit pouvoir les découvrir, mais aussi au nom de l'importance de la continuité et de l'unité d'un territoire, même dans un cadre confédéral. Ici, une affiche donc qui traduit, j'allais dire, on dirait aujourd'hui, une événementialisation, une célébration d'une fonction des tunnels, marquée par l'importance de cette continuité, mais plus largement, l'attachement en Suisse, ben, j'allais dire, à fêter les anniversaires des tunnels, qui ne sont pas que des objets, qui sont réellement des hauts lieux, voire des géosymboles dans l'organisation du territoire. Et en l'occurrence, la période de 2005 jusqu'à 2013 a été une période d'intense célébration d'anniversaire des tunnels en Suisse. Vous allez me dire, bien entendu, on arrive au centenaire. Centenaire du Simplon, 1906-2006. On pourrait dire centenaire du Lötschberg. Mais, si vous vous souvenez bien des petites dates que j'ai glissées avec ma carte, vous avez peut-être entendu tunnel de base du Lötschberg 2007, tunnel de base du Gothard 2016. Et la particularité de cette phase de commémoration et de célébration des anniversaires des tunnels historiques, c'est que cette célébration patrimoniale va chercher à entrer en résonance et à donner sens à l'événement ferroviaire et territorial qui accompagne alors cette période, qui est justement l'achèvement du grand système de nouveaux franchissements des Alpes, les nouvelles lignes ferroviaires alpines, NLFA, composées de ces deux tunnels de base. Et regardez, pour illustrer cela, la fin du discours prononcé par Moritz Leuenberger, président de la Confédération Suisse. Vous vous souvenez de ce qu'on vous a dit sur l'inauguration, en l'occurrence, du tunnel du Mont-Cenis, où côté français, il y avait des ministres, certes. Là, pour un anniversaire, on envoie le président de la Confédération. Et le président de la Confédération finit son discours pour le centenaire du Simplon comme cela. Tout le thème était sur le pionnier. Voyez-vous, dit le Simplon, voilà la différence. Nous, les tunnels ferroviaires, ne pensons pas seulement au présent immédiat, mais à une très longue échéance. Nous, les pionniers, ne baissons pas les bras dès que les choses prennent une mauvaise tournure. Nous persévérons. Le Lötschberg verra le jour, de même que le Gothard le Tschernery. Le transfert du trafic réussira. Nous ne nous laisserons pas décourager. Nous croyons à l'avenir du chemin de fer. Un pionnier restera toujours un pionnier. Nous fêtons les 100 ans du Simplon. Mais la résonance et la projection politique de la commémoration s'entend clairement dans l'événement contemporain qu'est l'ouverture du tunnel de base du Lötschberg. Mais non pas une ouverture pour une ouverture. Une ouverture pour quoi? Pour le transfert du trafic. Car, à travers ce discours et cette petite anecdote, le président de la Confédération rappelle pourquoi on fait des tunnels de base en l'occurrence. C'est pour ici, répondre à une commande politique exprimée par une votation, qui est justement d'avoir un outil permettant d'accompagner ce transfert modal de la route vers le rail, tout en commémorant le sens territorial sous-jacent, qui est l'obligation d'assurer la continuité territoriale par la desserte. Mais voyez qu'avec le Simplon, je fête 1906. Je fête donc l'ouverture à l'exploitation du Simplon. On va jeter un petit coup d'œil là sur le portail du tunnel historique du Lötschberg, le portail sud. Le portail du coup sur le qui débouche dans le Valais. Et on va regarder là ce qui pourrait représenter deux médailles, en fait ces deux plaques commémoratives qui sont placées justement sur cette entrée monumentale. On va retrouver 75 ans, on va trouver 100 ans, et on va plutôt regarder cette plaque qui est plus lisible, d'Olstech. Je vous ai dit tout à l'heure que le tunnel historique du Lötschberg avait ouvert en 1913 à la circulation. Pourtant là, la date qui est fêtée, c'est pas 1913, c'est 1911. Et lorsque l'on célèbre justement un tunnel, que célèbre-t-on? Quelle date? Première question, lorsque l'on veut célébrer, quelle date célébrer? Avec le Simplon, très clairement, là on a retenu 1906, c'est-à-dire la mise en exploitation. Par exemple, c'est ce qu'on retient actuellement avec 71-2021 pour le Mont-Cenis. Mais il y a une autre date, un autre référent qui est parfois pris en compte dans la célébration justement des traversées alpines. C'est l'achèvement du percement. Et là, on rentre beaucoup plus dans une mémoire ouvrière, une mémoire de mineurs, puisque ce sont des mineurs qui percent le tunnel. Et 1911, c'est l'achèvement du percement du Lötschberg, avec un poids très important, du coup, justement, de corporations italiennes, puisque ce sont, du coup, des ouvriers italiens qui, majoritairement, sont venus, du coup, percer le tunnel. Et ici, en faisant le choix de retenir 1911, très clairement, vous voyez qu'avec ces deux exemples, eh bien, en Suisse, on joue un peu dans cet entre-deux. On célèbre à la fois cette mémoire, j'allais dire, officielle de la mise en exploitation, la mémoire de l'exploitant, la mémoire de la compagnie ferroviaire, sans oublier pour autant la mémoire ouvrière, à travers, en l'occurrence ici, la célébration de la fin du percement. Alors, à travers ces tunnels, célébration et donc monumentalisation, mais la mise en valeur patrimoniale des lignes de franchissement alpin ne s'arrête pas au tunnel. Et ce qui est intéressant, c'est de se questionner comment, eh bien justement, à travers la mise en valeur patrimoniale, on peut faire en sorte que ces lignes historiques, qui sont toujours fonctionnelles, eh bien, soient toujours plus intégrées dans le fonctionnement territorial, et non pas seulement par ceux qui circulent dessus, mais aussi en tant qu'élément paysager et en tant qu'élément qui marque une histoire d'un territoire. Et ici, je reste sur le Lötschberg, et qu'est-ce que l'on voit tout le long de la rampe sud de cette ligne historique? Eh bien, un sentier. Un sentier aménagé. Hein. Je vous ai mis par exemple cette photo avec ce petit pont. C'est un sentier qui réutilise en fait une partie des plateformes des chemins de fer qui avaient des chemins de fer industriels qui servaient pour la construction. Et quand on ne peut plus utiliser d'anciennes plateformes, eh bien, on construit d'authentiques nouveaux aménagements pour faire passer un sentier. Un sentier balisé qui fait l'objet de dépliants particuliers, mais surtout qui fait l'objet, vous parliez tout à l'heure, monsieur, du coup, de la possibilité de mettre des panneaux. Clairement, en Suisse, ce que je vous présente au niveau du Lötschberg, on va avoir la même chose tout le long des rampes du Gotthard. C'est-à-dire que tout le long, on va avoir des panneaux payés par qui? Si vous regardez juste en dessous ici de mon panneau, vous voyez BLS, Bern Lötschberg Simplon, c'est la compagnie qui possède les rails et qui exploite la ligne, justement, du Lötschberg, qui est un acteur ferroviaire, un acteur de loisirs et un acteur foncier, parce que tout ça, ça se déroule sur le foncier qui appartient à la compagnie. Et quel est le discours? Là, par exemple, je fais le focus sur cette photo. On est ici avec le viaduc de Lwobelkin, sur cette rampe sud. Le discours, regardez, c'est à la fois de marquer, bien sûr, la dimension, j'allais dire, architecturale, mais l'histoire de la ligne ne s'arrête pas à sa construction au début du XXe, parce qu'il y a eu justement la mise à double voie, enjeu très fort. Enjeu justement de cette mise à double voie, qu'est-ce que l'on va dire ? Lors du doublement de la voie dans les années 80, BLS a fait beaucoup d'efforts afin de conserver l'esthétique de ce viaduc. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, bien pour ne pas masquer, vous voyez essentiellement les arches maçonnées. Le deuxième tablier, c'est un tablier béton. Hein. Mais sauf que de loin, vous ne voyez pas cette dimension. On voit essentiellement la forme de l'arche maçonnée. Quitte à le faire, autant construire un discours dessus pour le souligner qu'on l'a fait. Autant créer un discours pour souligner combien la dimension justement architecturale et patrimoniale est pleinement intégrée dans la stratégie de l'acteur. Et cela se traduit, regardez, sortie d'une petite gare, au passage d'une gare avec un arrêt à la demande. Hein, puisque là on est sur des trains qui passent toutes les heures, ce sont des lignes régulières, mais tout le long de la rampe, en fait, vous avez quelques arrêts fixes et des arrêts à la demande. Et ces arrêts à la demande, voient systématiquement converger justement le sentier avec, vous voyez, ce n'est pas un panneautage qu'il faut chercher avec un œil de lynx. On a même la petite tirette complètement à droite qui permet de sortir les petits plans. Tout est panoté, tout est fléché. À tout moment du sentier, vous savez à combien de minutes vous êtes d'une gare. Et si vous avez peur de vous perdre, mais ne vous inquiétez pas, tout est prévu. Il y a même des guides patrimoniaux pour découvrir la ligne, que ce soit depuis le sentier, mais que ce soit aussi depuis le train. Car la valorisation patrimoniale est une problématique pleinement intégrée comme élément d'activité des opérateurs ferroviaires. Non seulement ils participent de la mise en valeur du patrimoine, mais quitte à le faire autant que ce soit une valorisation aussi économique et politique, avec cette valorisation patrimoniale comme stratégie d'acteurs ferroviaires. On le voit ici avec toujours le Lutzberg, je resterai avec le BLS, avec ce concept, le Lutzberger. Vous voyez le Lutzberger sur les bancs, le long du sentier. Lutzberger, c'est une marque. Le BLS a fait le choix d'aller sur la marque. Une marque qui est déclinée jusque dans le nom du train et jusque dans la conception, dans la construction d'un territoire, en fin de compte touristique, de loisirs, qui va de Brigue à Berne, c'est-à-dire sur le segment parcouru par, justement, ce train. Et donc, d'une ligne de franchissement, on en arrive à une ligne de traversée. Mais, et je terminerai avec cette dernière idée, si le BLS a fait le choix de la marque, vous avez un autre opérateur ferroviaire en Suisse qui a fait le choix, lui, d'aller chercher le classement UNESCO. Et c'est le cas des chemins de fer éthiques au niveau de la Bernina. Je ne vous ai pas encore présenté cette ligne sur ma carte, mais la voilà. On est ici à l'est de la Suisse. À l'est de la Suisse, dans le canton des Grisons, avec cette ligne à voie métrique. Mais une ligne à voie métrique en Suisse, c'est un train par heure et par sens. Hein. C'est complètement dans le cadencement national. Une ligne qui est essentiellement en Suisse, avec un tout petit morceau terminal en Italie, et qui a candidaté, justement, avec sa compagnie qui l'exploite, les chemins de fer éthiques, pour obtenir ce classement à l'UNESCO, obtenu en 2008, et qui fait l'objet, là encore, d'une valorisation intense. Avec un sentier, avec un guide, avec du coup des opérations, j'allais dire, de valorisation tout le long de la ligne, avec, je prenais ici par exemple, vous voyez le Railway Adventure Trail de l'Albula, puisque c'est la ligne Albula-Bernina, et surtout, et je terminerai là-dessus, pour exprimer cette dimension complètement intégrée, même le train est pensé en lien avec ce projet. Dans le train, vous avez un parcours qui est commenté, alors que c'est un train régional. Je ne parle pas du Glacier Express à supplément, là. Je parle d'un train régional. Mais quand on va passer autour des viaducs particulièrement remarquables, vous avez une annonce. Et si vous voulez en savoir plus, pas de souci, vous téléchargez l'application des chemins de fer éthiques qui vous met en permanence les informations géolocalisées tout au long du parcours. Tout ça pour vous dire que, là encore, on va retrouver le graphisme ici d'un territoire traversé, d'un territoire qui fait sens par justement cette valorisation patrimoniale et qui marque la position singulière de ces acteurs ferroviaires qui sont certes acteurs ferroviaires mais aussi acteurs territoriaux. Je vous remercie.
À la fois de la clarté de votre propos, donc, et de l'enthousiasme que vous avez mis donc, à le prononcer.